Voilà, je suis très heureuse de pouvoir discuter cet ouvrage de Alizé et de réagir aussi au témoignage de Julien qui m'a vraiment beaucoup intéressée parce que, comme on dans la mise en évidence de l'ambivalence des sentiments ressentis envers justement ces employeurs qui ont un rapport à l'argent qui est évidemment sans commune mesure avec celui que le commun des mortels dont on fait partie justement peut avoir. En même temps, on comprend effectivement ce qui peut développer cette ambivalence et ce sentiment d'attachement qui vient de la fréquentation au quotidien dans les scènes finalement de l'intimité puisque là en plus c'était pendant les vacances et donc là il y a évidemment des relations fortes, des liens forts qui peuvent se construire. Mais en plus, je pensais en écoutant le témoignage de Julien, ça me faisait complètement penser à ce que dit la sociologue Marcel Strobans sur finalement la notion de compétence. Finalement, la compétence, elle dit, c'est le fruit finalement d'un processus d'habilitation. Et pour finalement être autorisé et devenir capable de faire quelque chose, justement, il faut avoir été autorisé. Et c'est riche, ces riches Américains au service desquels vous avez travaillé, finalement, vous ont en quelque sorte, d'après tel que vous l'avez restitué en tout cas, c'est comme si vous avez autorisé finalement à devenir un bon cuisinier. Et cette habilitation a précédé d'ailleurs la compétence, puisque vous avez fait l'apprentissage finalement de la compétence de cuisinier après avoir été habilité pour ça. Et peut-être que la reconnaissance, ce sentiment de reconnaissance, vient aussi finalement de cette possibilité d'avoir eu l'occasion de faire vos preuves dans ce métier de cuisinier qui pourtant aurait pu s'ouvrir à vous en tant que fils de restaurateur, mais là où vous avez eu la possibilité de l'exercer pleinement en toute autonomie, justement dans le cadre d'une relation qui est une relation salariale finalement, mais une relation salariale d'un genre particulier puisque elle est extrêmement imprégnée justement d'affect et d'émotion, d'où toute cette ambivalence qui est très forte et qui rend compliqué finalement le fait d'assumer d'avoir envie de partir. Quand cette expérience de travail a mis au contact avec des choses tellement extraordinaires, voyager en jet privé, rencontrer des personnes qu'on n'imagine même pas, rencontrer peut-être ailleurs qu'à la télé, je sais pas. Et il y a tout un ensemble effectivement de choses qui rendent la situation tellement extraordinaire que ça a un coût d'y mettre fin, effectivement, et ça va pas de soi. Ça fait aussi penser à ce que Alizé évoque dans son ouvrage quand elle explique elle-même comprendre les difficultés que peuvent avoir tous ces salariés de la domesticité à quitter leur patron quand elle-même, tu le racontes dans l'ouvrage, tu après un an de service comme nanny pour cette famille, tu as sans cesse reporté le moment où tu allais dire que effectivement, tu allais partir, culpabilisant parce que tu savais que justement tu avais été embauchée par une patronne qui voulait enfin quelqu'un qui reste durablement à son service. Et donc on retrouve tout cet engagement affectif dans la relation avec l'employeur qui rend effectivement la relation salariale très éloignée d'un simple contrat marchand, mais au contraire, cette relation salariale, c'est une relation qui n'est pas réductible à un contrat, et elle est bien plus qu'un statut, et en l'occurrence, ça n'est pas du tout un statut, mais c'est au contraire bien une relation littéralement affective qui est là. Et donc, cette dimension affective qui caractérise le salariat domestique, c'est un point, c'est un des points très très importants que Alizé met en évidence dans son ouvrage. J'en ai repéré d'autres moi qui m'ont intéressé et qui tiennent effectivement aussi à la thématique qu'elle a évoquée, qui est celle un petit peu du retour des domestiques. On sait que l'emploi domestique, Alizée l'a rappelé, a été très fortement encouragé par les politiques publiques, et bien justement de lutte contre le chômage. Le service à la personne a fait partie des secteurs les plus subventionnés. Et en plus de ça, la littérature ces dernières années, effectivement, a fait ressortir, notamment du côté de l'économie, des travaux qui attestaient finalement d'une sorte de retour des domestiques avec l'accroissement finalement du nombre de grandes fortunes à l'échelle de la planète. Et donc ce phénomène d'un retour des domestiques finalement correspond à un fait social qui reprend une ampleur importante alors qu'on le croyait disparu. Effectivement, si on refaisait l'histoire de la domesticité, on pourrait remonter à la fin du XIXe siècle, où la bourgeoisie, effectivement naissante, se plaignait de ne pas trouver de domestiques. Ces domestiques qui, extrêmement ingrats, préféraient aller travailler justement dans le salariat, même industriel, plutôt que de travailler bien à leur service. Et effectivement, statistiquement, les chiffres montrent bien cette quasi-extinction de la domesticité, sauf que, elle continue à exister et elle se renouvelle dans ses formes, Alizée l'a dit, sous la forme des services à la personne, donc du salariat à temps partiel, mais aussi sous la forme d'un salariat à temps plein au service donc des plus riches. On sait que cet encouragement à l'emploi, finalement, au service des riches, n'est pas seulement l'expression d'une politique d'emploi, c'est plus largement une politique qui semble faire système dans une économie qui finalement se considère comme redevable envers les classes supérieures qui sont considérées comme créatrices d'emplois, puisque les plus fortunés sont considérés comme des investisseurs créateurs de richesses, ce qui mérite bien quelques exonérations fiscales pour leur permettre de se dévouer à la grande cause de l'entreprise capitaliste dont les bienfaits ruisselleront sur toute la pyramide sociale. L'ouvrage de Alizée, pour moi, il est très intéressant parce que il donne aussi à voir un peu l'envers finalement de cette image idéalisée de ces classes supérieures entrepreneuses qui sont un peu les bienfaiteurs de la start-up nation. On voit des employeurs confrontés aux embarras finalement de la gestion aussi de la relation salariale avec leurs domestiques. Alors, des embarras qui se manifestent dans la relation interpersonnelle, qui met en rapport effectivement finalement des groupes sociaux qui sont séparés par des distances sociales souvent abyssales. En revanche, leur embarras est nettement moindre dès qu'il s'agit de contourner le droit du travail, puisque le droit du travail s'applique très peu dans l'espace justement domestique, qui est un espace privé. Et donc, leur connaissance des règles de droit leur permet effectivement de le contourner avec une grande aisance et une grande facilité. Et là où l'ouvrage de Alizée est intéressant, c'est que ce contournement des règles du droit du travail peut se faire avec l'approbation des domestiques eux-mêmes, qui peuvent effectivement, dans certains cas, eux-mêmes, demander à y être soustrait. Donc, son ouvrage est tout sauf manichéen, dans la mesure où il rend bien compte de la construction finalement d'une relation qui reproduit les inégalités sociales, donc une relation de domination à l'intérieur de l'espace domestique, dans ce rapport entre employeur et domestique. Mais il rend compte de la manière dont cette relation finalement de domination est entretenue dans le cadre d'une division sexuée qui est très nette au sein des familles employeuses. Alizée l'a dit, ce sont les femmes qui recrutent, qui gèrent le personnel, quand ce sont leurs conjoints, leurs époux qui payent ce personnel, et qui, eux, par contre, ne veulent pas entendre parler effectivement des histoires qu'il pourrait y avoir avec eux. Donc, il y a une division sexuée effectivement qui est très forte. On est loin d'une masculinité chez les classes supérieures hégémoniques qui serait ouverte des rapports sociaux de sexe plutôt égalitaires. Là, on est en présence effectivement de classes supérieures qui sont elles-mêmes extrêmement rattrapées par un ordre du genre qui est effectivement marqué par une division sexuée, travail domestique extrêmement étanche entre les hommes et les femmes. Et on voit aussi des pratiques d'employeurs qui, faute de pouvoir anticiper, formuler leurs exigences, qui sont sans limite vis-à-vis de leur personnel domestique, hein, puisque comment ces employeurs souhaitent des domestiques pour aussi satisfaire jusqu'à leurs caprices les plus insensés, donc veulent un personnel qui soit en mesure d'être disponible à tout moment. Et même quand on avait dit qu'on dînerait qu'on mangerait au restaurant et que finalement au dernier moment on débarque à 30 dans la maison, c'est pas grave, il faut que les domestiques soient prêts effectivement à faire face à ce genre d'imprévu. Donc il faut, comme dit Alizée, trouver la perle rare qui va accepter un travail dans ces conditions. Cet ouvrage, moi, il m'a intéressé et je l'ai lu comme un ouvrage qui donne vraiment à voir une domination qui semble effectivement improbable. Je pense qu'il faut prendre cette idée au sérieux parce que même évidemment les domestiques eux-mêmes peuvent vivre cette situation comme improbable. À l'heure d'un salariat généralisé, comment est-il encore possible de s'engager dans des relations domestiques effectivement qui absorbent en fait la personne dans sa totalité, dans le travail qui est demandé. Alors, ce que Alizée montre très bien, c'est comment se construit cette suggestion personnelle. On retrouve donc ce qu'on a dit effectivement et vu avec Julien, c'est de l'instauration de cette mobilisation par l'affect. Hein, là, je reprends l'expression de Gabriel Schütz, mais à une toute autre échelle, hein, puisque là, effectivement, l'affect est relayé par non seulement l'affirmation, mais des gestes qui font tout pour créer les conditions de, en tout cas en parole, de l'intégration des domestiques dans la famille. L'affect, effectivement, se traduit très concrètement par, plus que du salaire, des cadeaux. Des cadeaux qui créent de la dette, donc de la redevabilité. Cette suggestion personnelle, elle est aussi rendue possible par la dépendance économique, évidemment, qui est entretenue en direction des domestiques. Et cette dépendance économique des domestiques, elle est aussi justifiée derrière toute une rhétorique du sauvetage social. Effectivement, cette pauvre domestique, ce qu'elle gagne ici, mais c'est ce que je lui ai offert, mais c'est une bouée de sauvetage, mais extraordinaire. Je suis un bienfaiteur. Les riches se pensent effectivement comme des bienfaiteurs qui sauvent l'humanité, en l'occurrence l'humanité qui vit dans les conditions effectivement de pauvreté les plus importantes. Donc ce sont des sauveteurs, ils se vivent comme ça, pour ce qui permet de dissimuler effectivement la dépendance économique qu'ils entretiennent. Ce qui est aussi très intéressant dans ce que montre Alizée, c'est comment cette relation salariale qui est marquée par la proximité est rendue vivable par l'altérisation des salariés qui sont finalement recrutés pour travailler comme domestiques. Elle montre très bien la difficulté finalement qu'il y aurait dans un espace domestique, qu'il y aurait de transformer un semblable, effectivement quelqu'un qui nous ressemble, en domestique. Et donc pour faire travailler à son service quelqu'un, ce que montre Alizée, c'est que les riches finalement y parviennent en attribuant à ces domestiques une nature altérisée, nature ou culture d'ailleurs. Ils cherchent effectivement des formes d'exotisme pour effectivement justifier le fait que ces domestiques sont imprégnés d'une culture qui n'a rien à voir avec la nôtre et qui font qu'ils aiment servir, que servir est une vocation et quelque chose qu'ils ont dans la peau. Et les domestiques ont très bien compris l'importance qu'il y a à mettre en scène justement cet exotisme, cette altérité pour décrocher des postes, puisque c'est ce qui rassure et c'est riche. Et puis, c'est ce qui les rend aimables et surtout inoffensifs aux yeux de leurs employeurs. Et ce que montre aussi très bien l'ouvrage de Alizée, c'est comment, dans la relation salariale entre patron et domestique, la domination qui est à l'œuvre est une domination qui passe par le genre. Puisque, on l'a vu, donc du côté des employeurs, ce sont les hommes qui payent, mais les femmes qui commandent. Mais comment commander quand les domestiques sont des hommes? Alors, c'est là qu'on voit surgir effectivement des rapports de race et de genre. Donc, des femmes infériorisées dans un rapport de race sont plus faciles à commander que les femmes blanches. Mais des hommes, pour les commander, on voit se développer chez les patronnes eh bien toute une rhétorique hein, qui passe par l'attribution d'une présomption d'homosexualité, effectivement, chez les domestiques. L'altérité arrive aux hommes par cette présomption d'homosexualité, voire par l'attribution d'un genre féminin, effectivement, à des hommes qui sont littéralement travestis, que l'on transforme donc littéralement en femme. Donc, la féminisation, effectivement, des hommes est un moyen de faciliter le commandement par les femmes de ce personnel domestique. Et donc, comment, et c'est ce que montre aussi très bien Alizée, comment s'obtient hein, le consentement à cette domination qui peut donc aller très loin dans finalement les frontières de l'intimité personnelle. Cette domination, elle est consentie par ce qu'Alizée appelle dans son premier chapitre le rêve des domestiques, hein, par effectivement les étoiles qui rêvent dans les yeux devant tout ce que finalement la vie de ces riches permet d'approcher. Il y a une grandeur, en quelque sorte, à servir les riches, à servir effectivement des personnes de renom. Et donc, il y a aussi tout cet enjeu pour les personnes qui s'engagent dans la domesticité, certaines de sortir d'une condition subalterne. Et il y a tout cet effet d'illusion d'appartenir finalement à une grande famille. On est des leurs, en quelque sorte, on fait partie de la famille et c'est une manière effectivement de se grandir que de servir eh bien, des plus grands que soi. Et ce que montre aussi très bien l'ouvrage d'Alizée, c'est des exemples aussi de domestiques qui ne cherchent pas nécessairement à se transformer et à devenir semblables à des riches, mais comment le fait de travailler au service des riches est aussi au service de petites mobilités sociales dans leur propre milieu d'origine. Parce que, eh bien, ils maîtrisent les codes, voilà, de la grande bourgeoisie, comme ils connaissent les codes, bien, justement, des classes populaires. Ils sont à l'aise dans tous les milieux. Et cette fluidité sociale, par la maîtrise des codes qu'ils ont apprise, eh bien, leur donne une aisance qui facilite leur circulation entre les milieux sociaux et leur permet aussi, eh bien, de jouer dans leur milieu d'origine un rôle, là aussi, d'assumer effectivement une position de supériorité. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi toutes les nuances qu'apporte Alizée à cette analyse, c'est que si cette domination est possible, c'est parce qu'il y a donc consentement à la domination, et ça n'est pas uniquement, nous dit-elle, parce que eh bien, les uns et les autres y trouvent avantage. Ce serait effectivement simple, voilà, ou réducteur, évidemment, d'analyser ce système comme finalement un système dans lequel tout le monde trouve son compte. Hein. Il n'y aurait plus de sociologie à faire. La messe serait dite. Comment ce que Alizée, justement, remet en perspective, hein, c'est toute la dimension structurelle et tous les rapports sociaux qui rendent possible, justement, cette situation. Hein. C'est bien parce que il existe des inégalités structurelles à l'échelle, effectivement, cette fois-ci planétaire, et bien que il est possible pour ces super riches de recruter effectivement des domestiques qui ont l'espoir de sortir, justement, de statut qui les condamnent à la misère. C'est aussi parce que ils ont la possibilité de s'affranchir des règles du droit du travail, hein, qu'ils ont la possibilité effectivement de jouir de cette main d'œuvre comme ils l'entendent. Hein. Ils sont certains de ne pas être inquiétés par la visite inopinée d'un inspecteur du travail. Et c'est aussi par l'essentialisation hein, des qualités de cette domestique, hein, qui passe par une ethnicisation des qualités qui leur sont attribuées, ce qui leur permet effectivement de nourrir eux aussi l'illusion, cette fonction de domestique hein, occupée par leur personnel, est l'expression d'une nature profonde, hein, et que de toute façon eux, en quelque sorte, n'y sont pour rien. Ils ne font effectivement que permettre à cette nature effectivement de vivre plutôt dans de bonnes conditions. Donc moi, je voudrais juste revenir sur deux points qui m'ont donc particulièrement intéressé dans cet ouvrage. La question salariale qui m'intéresse particulièrement et la question effectivement du travail domestique. Hein. La question salariale, ça m'a beaucoup intéressé évidemment de lire cet ouvrage parce que on sait quand on est sociologue du travail que la domesticité, c'est en quelque sorte une forme élémentaire de salariat. Hein, la domesticité, ça correspond aux premières formes finalement de relations salariales avant la généralisation du salariat à la fin du 19e siècle. Les ouvriers agricoles, les domestiques, on les trouve dans l'Antiquité hein, et jusqu'à la Révolution industrielle qui a contribué à réduire leur part justement dans l'emploi salarié au profit effectivement d'emplois d'ouvriers, d'employés, etc. Et le salariat, comment est-ce qu'il a pu s'imposer dans les sociétés occidentales et les sociétés industrialisées, hein, ayant connu des révolutions politiques et industrielles? Eh bien, c'est parce que le salariat permettait aux travailleurs d'exercer en dehors de toute relation de sujétion personnelle. Hein, Marx rappelait bien dans voilà les Grundrisse, les travaux préparatifs à l'écriture du Capital, combien le salariat, c'est la possibilité justement pour le travailleur de sortir du système patriarcal, de la dépendance personnelle envers le patron, ce qui était le cas dans la corporation. Comment au contraire, le salariat, c'est la possibilité pour eh bien le travailleur de jouir justement de son argent pour choisir ses consommations. Marx parlait même effectivement de la possibilité pour le travailleur de devenir vénal, hein, et de sortir justement de ces relations patriarcales. Et donc, le salariat, effectivement, c'est un moyen qui permet de mobiliser le travail en dehors de toute relation de sujétion personnelle, et c'est un moyen effectivement d'accès à une indépendance financière, hein, qui fait que eh bien le travailleur est libre de se vêtir, de se loger, de se nourrir comme il l'entend, sans que ce soit à la table justement de celui qui l'emploie. Et donc moi la question que je me suis posée, c'est même si Alizée l'a très bien démontré, c'est effectivement comment, quelles sont les conditions de possibilité de la persistance, hein, d'une forme salariale marquée par ces formes de sujétion personnelle. Hein. Alors, Alizée a très bien montré que, puis ça ressort aussi dans les témoignages de Julien, hein, l'importance des cadeaux, l'importance voilà de l'affect qui rend eh bien cette condition de domestique au service des riches désirable. Mais je me suis demandé en lisant l'ouvrage si on n'est pas en présence d'un don tout de même un peu particulier, hein, parce que ce don, c'est pas un don qui appelle contre-don. Effectivement, le contre-don, bah, c'est évidemment un service, sans limite. Mais il me semble que le don ici, il remplit une fonction encore supplémentaire. Il n'a pas uniquement vocation à acheter la loyauté, mais vraiment à entretenir une dette qui sera effectivement impossible à rembourser. Donc là, on est vraiment en présence d'un don agonistique qui vise véritablement à affirmer effectivement une supériorité qui crée une distance sociale effectivement qui est impossible à réduire. Et donc, il me semble que là, l'enjeu dans cet échange de dons, il est effectivement extrêmement… on peut, je pense, le qualifier de… Voilà, c'est une proposition hein, que je soumets à ta sagacité, Alizée. Hein. Il me semble qu'on pourrait presque parler de don agonistique à son propos. Et ça permet aussi d'ailleurs de comprendre à quel point, et ça m'a frappé aussi à la lecture, alors qu'Alizée a très bien montré qu'il y a un turnover très important dans ce secteur. Un turnover très important, les domestiques effectivement rêvent de partir et effectivement il y a une instabilité de fait, mais ce qui est très fort, c'est que les patronnes, puisque ce sont elles qui embauchent et qui licencient, les patronnes se font fort d'avoir l'initiative du licenciement. Je pense à une patronne là que tu évoques qui vend la mèche en quelque sorte hein, et qui explique effectivement qu'elle préfère virer sa domestique avant que sa domestique ne la quitte hein, pour pouvoir eh bien là aussi avoir la main sur la liberté de mouvement. Le départ, eh bien même leur départ, ils ne l'auront pas choisi. C'est voilà l'employeur qui leur a imposé. Alors, l'autre élément qui m'a intéressé dans cette relation salariale, c'est qu'on a affaire à une relation salariale qui est vécue donc dans l'espace domestique, qui est marquée donc par des relations de proximité très fortes entre employeurs et salariés. Et évidemment, cette proximité est source de gêne, est source de malaise, hein, quelquefois. Hein. Même, j'ai oublié son nom, ce patron qui a pourtant vécu avec 50 domestiques voilà, dans sa maison donnée, eh bien, par moment, il peut être gêné, effectivement, d'avoir la présence voilà, de sa domestique qui lit dans le salon à côté du sien. Voilà, il y a tout de même cette proximité qui peut être une source de promiscuité, évidemment, qui est très difficile à. Et on voit bien, effectivement, comment cette proximité immense spatiale, qui se double, évidemment, d'une grande distance sociale, elle n'est vivable, effectivement, que eh bien, par des stratégies qui visent à restaurer la distance. Effectivement, Alizée fait allusion à l'intérêt, finalement, de s'inspirer de la sociologie urbaine et de l'analyse des processus ségrégatifs hein, qui séparent, finalement, les lieux de vie, effectivement, des différents groupes sociaux, eh bien, dans l'espace domestique, effectivement, on voit aussi comment l'espace domestique est organisé de façon à restaurer cette distance hein, entre les patrons et les domestiques, de façon finalement à limiter aussi les contacts, et bien uniquement hein, au strict nécessaire, pour ne pas être gêné par la présence justement de ces domestiques dans la maison. Hein. Et donc, voilà, on voit bien comment l'altérisation, hein, la production d'une altérité est une condition finalement de l'existence de cette relation salariale. Alors, le dernier point que je voulais évoquer très rapidement, c'est finalement une proposition qu'évoque Alizé à la fin, hein, c'est sur la question du travail domestique. Finalement, comment se fait-il que, eh bien, seuls les plus riches, en tout cas, voilà, les plus aisés, sont aidés financièrement par les pouvoirs publics, par des politiques, effectivement, qui visent à les aider, à recruter, eh bien, du personnel hein, qui prend en charge leur travail domestique. Et ça pose une question que je trouve très intéressante, qui gagne peut-être aussi à être creusée. Quel est le statut, effectivement, du travail domestique? En fait, le travail domestique, on considère qu'il peut être effectivement désirable de l'externaliser parce que, eh bien, nos engagements professionnels, notre vie, nos loisirs supposent effectivement de nous débarrasser de ces tâches domestiques. Mais en quelque sorte, les avis sont partagés sur le statut du travail domestique. Bellux, par exemple, considérait que investir finalement le domicile, la maison, le travail domestique, c'est aussi pour les femmes noires altérisées dans un salariat qui les maintient dans des positions subalternes, effectivement, dans une exploitation là qui n'est pas dorée du tout, eh bien, la possibilité de pouvoir jouir justement de la famille, de l'espace domestique, c'est un moyen, une source de réappropriation et un moyen de ressourcement pour, au contraire, eh bien, s'armer hein, pour justement affronter la domination extérieure. Et au-delà de Bellux, effectivement, se pose tout un ensemble de questions qui divisent d'ailleurs les féministes hein, sur le statut du travail domestique. Est-ce que le statut du travail domestique, eh bien, c'est uniquement un statut, en gros, de sale boulot, hein, de corvée, voilà, qu'il faudrait effectivement sous-traiter et dans des conditions, eh bien, qui sont celles du marché, hein, à des populations qui sont subalternisées. Est-ce qu'il faut, au contraire, revaloriser ce travail domestique en créant, comme le propose Alizé, reprenant d'ailleurs la proposition d'Angela Davis hein, de créer un service public du travail domestique qui permet eh bien aux classes supérieures comme aux classes populaires de bénéficier de services domestiques justement à l'aide effectivement de travailleurs qui possèdent un statut et des rémunérations qui sont dignes de ce nom. Hein. Où est-ce qu'il faut, au contraire, eh bien, se réapproprier, hein, comme l'envisage ou le suggère, par exemple, Silvia Federici, hein, est-ce qu'il faut se réapproprier, eh bien, le travail domestique pour développer, eh bien, des pratiques écoféministes, par exemple, hein, et imaginer, eh bien, d'autres modes de consommation, hein, qui soient plus écologiquement responsables. Donc, je pense que là, il y a tout un questionnement, effectivement, qui est ouvert, l'externalisation n'est qu'une effectivement des possibilités qui nous sont offertes hein, pour penser évidemment le statut de ce travail domestique dans nos sociétés.